Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon ami Olivier Frey qui n'achète que des produits et légumes français. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la souveraineté alimentaire en France, du gaspillage alimentaire, des lots de luxe avec la participation d'Emilie Lestari et du café sans café par une start-up américaine mais finalement aussi par Starbucks. On commence tout de suite avec un article sur Le Point. La France peut-elle reconquérir sa souveraineté alimentaire? Cet article du journal Le Point nous montre que la France a encore un long chemin à faire avant d'y arriver, Olivier.
Oui, la souveraineté alimentaire, c'est le sujet du moment, hein. Tout le monde en parle. Alors, il faut rappeler quand même le contexte. Cette semaine, c'était la semaine de l'agriculture.
Tout à fait.
Qui remplaçait le salon de l'agriculture qui n'a pas pu avoir lieu
avec
cette année.
Avec 3 mois de retard quand même.
Voilà. Donc, le monde agricole a lancé la semaine de l'agriculture. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur l'agriculture. J'en ai mis une petite sélection. Hein.
Uh-huh.
Et le sujet qui ressort le plus, c'est finalement la souveraineté alimentaire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'autrefois, la France était un peu le grenier agricole de l'Europe.
On est d'accord.
Mais aujourd'hui, en fait, l'indépendance alimentaire de la France, elle est de moins en moins vraie.
Mm-hmm.
On n'est pas encore non plus... on ne doit pas encore tout importer. Hein, mais si on regarde l'an dernier, pour la première fois depuis les années 70, en fait, la balance commerciale agricole de la France avec ses voisins européens, elle est tombée dans le rouge, en fait.
On
est en négatif pour la première fois.
Ça veut dire qu'elle importait plus qu'elle exportait.
Voilà. Et du coup, si on importe beaucoup plus, ce qu'il faut voir, c'est que les échanges agricoles de la France, hein, historiquement, ça reste un des contributeurs positifs à la balance commerciale avec l'aéronautique, etc.
Tout à fait.
Mais l'an dernier, c'était 6,3 milliards de bénéfices. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce bénéfice, il a été divisé par deux en 7 ans.
Énorme. Et en fait, ces bénéfices, il est limité à quelques filières, comme la filière des vins, des boissons alcoolisées, des céréales, des produits laitiers, du sucre et des semences. Et ça s'arrête là.
Ouais, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Hein. Il faut voir qu'on importe quand même 60% des fruits. Ouais. 60%. Sur les légumes, on est à 40%.
Énorme.
Et c'est pas mieux forcément au niveau de la viande, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'au global, un tiers des volailles sont importées, hein, contre 13% en 2000. Hein.
2000.
Donc, en 20 ans, on a quand même importé vachement plus de volailles.
C'est clair.
Mais surtout, en fait, ce qu'il faut voir sur la volaille, c'est que la volaille que vous avez dans les restos et les restaurations collectives,
mm-hmm.
c'est à 80%, c'est de la volaille qui est importée.
Étrangère, hein. Tout à fait, on va évoquer cela.
Si on regarde les produits aquacoles, donc les poissons, les fruits de mer, etc., c'est 85% des produits qui sont importés.
Ouais. C'est un truc des malades.
Mais moi, j'étais surpris par ce chiffre-là.
Ah ouais, il est énorme.
Des produits
moi, je suis surpris par tous les chiffres que tu évoques. Mais qu'est-ce qui a causé cette dégringolade agricole, Olivier?
Alors, en fait, selon l'article du Point, hein, et Géraldine Wessner qui a rédigé l'article, il y a plusieurs explications à cette baisse de l'indépendance alimentaire
d'accord.
de la France. D'une part, on a des charges sociales qui sont plus élevées que nos voisins européens,
tout
notamment. Hein, donc, on sait tous, on paye beaucoup d'URSSAF. Enfin, nous, on le sait. Hein, toi, Daniel et moi, on le sait. On est entrepreneurs. Donc, les charges sociale en France, ça pèse quand même beaucoup sur nos résultats.
Énormément.
On a aussi une espèce de surréglementation systématique en France. On aime bien se mettre des normes plus fortes que les autres. Hein. Donc, on a des voisins qui ont des normes et nous, on dit, nous, on veut être meilleurs. Donc, on se met des normes encore un peu plus contraignantes que les voisins, notamment en matière environnementale. Hein.
Ce qui est bien, mais qui cause quand même, qui pose pas mal des contraintes et des soucis. Quoi.
Voilà, des contraintes de compétitivité, hein, clairement.
On est d'accord.
Et d'autre part, on a des faiblesses structurelles parce qu'on a des filières agricoles, certaines filières qui sont assez mal organisées.
Mal organisées aujourd'hui, oui. Et finalement, la France paye aussi les prix d'un positionnement un peu, on va dire, entre guillemets, haut de gamme, axé sur la qualité, qui ne correspondait pas forcément aux attentes du marché européen sur les 20 dernières années. Alors que nos voisins, à l'inverse, ils ont intensifié leur production et réduit leur prix. Par exemple, la Pologne et la Roumanie, après la crise de 2008, ils ont des coûts quand même des productions très, très bas. parce que la main-d'œuvre là-bas, elle coûte moins cher. Et ils ont fortement augmenté leur production. Ils ont gagné des parts des marchés sur les marchés européens, en fait.
Oui, et si on regarde la viande, hein, par exemple en Allemagne, on sait que produire du bœuf en Allemagne, ça coûte moins cher que chez nous. Hein, d'une part, parce qu'ils ont recours à une main-d'œuvre proche
des pays de l'Est.
Jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de salaire minimum non plus en Allemagne. Hein,
ah ouais, même pour
voir.
Non,
hein. C'est juste... Voilà. Donc il y a quand même en Europe une distorsion de concurrence au niveau des charges sociales et du coût du travail.
Tout à fait.
Et. Aux Pays-Bas, pendant ce temps, eux, ils ont intensifié leurs élevages. Donc, ils ont développé, ils ont agrandi leurs fermes, les bâtiments des fermes pour produire plus et faire des économies d'échelle. Mm-hmm. Mais nous, en France, on aime bien, on est small is beautiful hein, chez nous.
Oui,
donc,
mais c'est...
On a nettement réduit le nombre de bêtes par élevage et par abattoir par rapport aux autres pays européens.
Tout à fait.
On a des pays comme le Danemark sur le porc, c'est des leaders avec des énormes fermes et des entreprises qui pèsent des milliards et des milliards.
Oui, c'est ça qu'on trouve ça bien, la démarche, elle est positive, celle de la France. Après, ça pose des problèmes de compétitivité, comme tu as évoqué. Et pour les fruits, c'est pareil. Les fruits français, aujourd'hui, sont perçus comme chers, en fait, dans les marchés européens. On exporte aujourd'hui un tiers de la production des pommes, alors qu'on importe des pommes des Pologne, parce qu'elles sont beaucoup moins chères.
Ouais, et finalement, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tous se permettre d'acheter des produits bio ou des produits plus haut de gamme. Hein. On est à une crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique aussi. Hein. On en a parlé plusieurs fois avec les étudiants qui ont du mal, tout plein de professions qui sont sur des revenus qui ont vachement baissé. Et finalement, on ne peut pas tous se permettre d'acheter du bio ou d'acheter du haut de gamme tous les jours, en fait.
Oui, bien sûr. Nous sommes 100% d'accord. Après, en même temps, la grande loi sur l'alimentation votée il y a 2 ans a tout misé sur une montée en gamme de la qualité des produits français. Mais justement, pour continuer à proposer des produits moins chers, la France continue d'importer massivement des produits étrangers moins qualitatifs. D'où l'importance d'éduquer les consommateurs à faire des efforts pour favoriser, dès que possible, les produits français. Les consommateurs, ils ont un rôle à jouer qui est très important pour l'agriculture française. Les problèmes, est que souvent, les produits importés sont là où on ne les voit pas, en fait. C'est justement ce que tu évoquais avec la restauration collective et c'est justement ce qu'a souligné la journaliste Virginie Garin dans une émission sur RTL la semaine dernière. Je vous fais écouter un passage.
Quelles sont aujourd'hui, Virginie, les solutions ?
Alors déjà, inciter à manger français. Il y a un engouement pour le local, pour les circuits courts, ça marche. Mais le gros problème, c'est la restauration collective et les plats industriels. C'est impressionnant. Hein. 3/4, par exemple, du poulet est importé, beaucoup de Pologne. Et on ne le sait pas parce que les règles européennes interdisent d'indiquer les pays d'origine en restauration collective. Voilà donc une première piste.
Voilà ce qu'on évoque souvent chez It's Business, Olivier, c'est que les consommateurs doivent continuer à faire des efforts pour manger français, mais il y a encore beaucoup de boulot pour que les industriels et les acteurs de la restauration collective se mettent également aux produits français. Quoi.
Ouais, c'est un vrai débat, un vrai sujet pour la souveraineté alimentaire française.
On est 100% d'accord. On va continuer avec un article sur les gaspillages alimentaires dans Le Parisien. D'ailleurs, si on gaspillait moins, on aurait peut-être besoin de moins importer aussi.
C'est possible ça.
Gaspillage alimentaire en France, 5,5 millions de tonnes de nourriture jetées par an. Les résultats d'un sondage de l'Institut Opinionway sont assez accablants, Olivier.
Ouais, alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Hein. 94% des personnes interrogées lors de ce sondage ont affirmé faire attention au gaspillage alimentaire.
C'est une très bonne nouvelle, ça.
C'est une bonne nouvelle, ça plaira à notre ami Esterelle, d'ailleurs,
ah oui.
Qu'on salue. Et autre bonne nouvelle, 50% des personnes interrogées pratiquent au moins 5 gestes anti-gaspillage au quotidien.
Pas mal. Justement, en fait, sur notre compte Instagram, Olivier, on avait demandé à nos abonnés s'ils réutilisaient leurs restes alimentaires et les résultats sont plus encourageants. 62% disent faire des recettes avec les restes. 5% s'en servent pour d'autres usages comme les ménages ou des astuces beauté. 16% font du compost avec les restes et que 18% disent ne rien faire de leurs restes.
Oui, et si on revient au sondage Opinionway, 60% des personnes interrogées disent pratiquer le tri des produits dans le frigo. Alors, c'est une vraie problématique. Hein. Même moi, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Où est-ce qu'on range les produits dans le frigo ? Parce que selon les clayettes sur lesquelles on met les produits, ce n'est pas le même froid. Donc, il y a le bac à fruits et légumes, mais moi... Quand j'étais étudiant, j'utilisais ce bac-là pour ranger les bières. Alors, il y a 56% des personnes interrogées qui congèlent les produits frais dès l'achat. Hein, donc ça voilà. C'est bien. Hein, oui, finalement, après, tu t'achètes une plus grande quantité. Si t'as un, bon, faut avoir un grand congélo déjà.
Mais... Ouais, il faut avoir un appartement où tu peux avoir de la place pour un congélateur.
Il y a 51% des personnes interrogées qui cuisinent en plus petite quantité. Mm-hmm. Bon, ça peut aussi aider à l'anti-gaspillage. Hein,
c'est clair.
Mais après, vous pouvez cuisiner plus et congeler ce que vous avez aussi cuisiné en trop.
Nous, ce qu'on fait ici chez Business of Bouffe, on ramène toujours les restes du dîner pour les déjeuners au travail. Ah, ça, voilà. C'est une bonne solution d'éviter de faire du gaspillage.
Alors, du côté des mauvaises nouvelles, cette fois, c'est 5,5 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées. Et ça représente à peu près de quoi nourrir 10 millions de personnes.
10 millions de personnes, c'est plus que la part de la population dans les besoins, Olivier.
Ouais, et dans les gens qui jettent, 50% confient jeter au moins un type de produit, donc d'accord, du pain, des légumes, tous les mois. Mmh. Et un quart jette au moins 5 types de produits.
D'accord.
Donc, c'est quand même pas mal gaspillé. Hein. Il y a un quart qui jette du pain, des légumes, des produits laitiers tous les mois.
C'est énorme, ça.
Et là, l'autre mauvaise nouvelle qui aussi est un peu embêtante pour l'avenir, c'est que c'est les 18-24 ans qui jettent 2 à 3 fois plus que les 65 ans et plus, tout type de produits confondus.
Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Je suis très surpris, Olivier, car les jeunes sont beaucoup plus engagés envers la planète que leurs aînés. Mais en termes de gaspillage, il se trouve qu'ils sont beaucoup moins vigilants, en fait.
Ouais.
Et la principale raison qui les amène à jeter un produit, selon l'article, la date des péremptions dépassée pour 45% d'entre eux.
Ouais, donc il y a souvent des débats hein, sur la DLC, la date limite bien de sûr. Consommation, la date optimale d'utilisation, enfin la DLUO. Donc il y a un vrai travail à faire, je pense, d'éducation sur encore les dates. Les DLC, par exemple, sur les yaourts, on sait que des yaourts, s'ils ont dépassé la date, on peut encore les consommer pendant bien quelques sûr. Jours. Hein.
Ah, il faut les goûter pour voir déjà voilà. si ils sont bons ou pas. Et il y a quelques astuces aussi simples à suivre pour éviter cela, pour éviter du gaspillage, comme acheter peut-être des petites quantités quotidiennement. Déjà, ça peut éviter de trop acheter et de laisser les aliments pourrir dans son frigo.
Alors après, le problème, c'est que des fois, les promotions, ça va être sur des gros volumes. Tu vois, si tu regardes le prix au kilo, etc., quand tu achètes en plus petite quantité, c'est moins intéressant. Donc, il y a aussi peut-être les industriels et les distributeurs devraient travailler là-dessus.
Bien sûr, mais de toute façon, comme tu as évoqué, je pense que la vraie solution passe par l'éducation alimentaire. Et aussi, plus les jeunes se mettront en cuisine, moins ils vont gaspiller. Donc, il faut continuer nos efforts pour éduquer cette jeune population, parce qu'en fait, c'est eux qui feront l'avenir de la France. Et c'est important aussi qu'ils apprennent à ne pas gaspiller.
Tout à fait.
On poursuit avec un sujet qui nous met tous de bonne humeur, la réouverture des restaurants. Mais ici, on s'intéresse plus particulièrement à la réouverture des restaurants 3 étoiles français avec un article du Financial Times. Gastronomes look beyond pandemic to a revolution in French fine dining. Les gastronomes projettent une révolution dans la gastronomie française post-pandémie. Olivier, cet article met en lumière les difficultés auxquelles font face les acteurs de la gastronomie française.
Oui, effectivement, on est déjà tous contents que les terrasses rouvrent.
Ah,
hein.
Quel bonheur.
T'en as profité, toi ?
Ouais, je suis allé à la Vierge à côté.
Bon, c'était un peu... On n'était pas gâtés par le temps, mais en tout cas, on est tous bien heureux que les restos ouvrent enfin, même si c'est sur une portion limitée de leur établissement.
On est d'accord.
Et comme le résume, en fait, cet article, c'est... Ces temples de la gastronomie française ont longtemps attiré les touristes étrangers fortunés qui n'hésitent pas à payer plus de 1000 euros pour un repas en tête-à-tête.
C'est clair.
Tant qu'ils peuvent découvrir l'art de vivre à la française.
Et oui, et à table des grands restaurants de la capitale, on comptait avant la pandémie beaucoup plus des touristes étrangers avec des gros portefeuilles que des Parisiens ou même des Français.
Ouais, et le problème, c'est qu'avec la pandémie, bah, ces clients étrangers, ça fait des mois et des mois qu'ils ne sont pas venus.
Ah ouais.
Hein, et ils ne risquent pas de revenir avant un certain temps encore,
oui,
hein, avec les histoires de passe sanitaire, etc. On a ouvert aux Américains, mais ce n'est pas les Américains qui vont tout faire non
oui,
plus.
Oui, et les gens sont réticents quand même.
Et du coup, pour ces grands restaurants, hein, en plus, un restaurant 3 étoiles pour le moment, je pense qu'il y en a très peu qui ont des terrasses, donc ils attendent tous mi-juin pour réouvrir. Oui. Et ils ont un double défi, c'est attirer les locaux
oui.
et aussi retenir leurs employés parce que on en a déjà parlé plusieurs fois hein, les employés il y en a certains après plusieurs mois d'inactivité qui ont décidé de se réorienter de faire une formation pour aller bosser ailleurs
tout à fait et même les Français les locaux ils ne cherchent pas forcément tous les jours tout le temps la haute gastronomie ou tout simplement ils ont juste pas les moyens en fait de se payer des bons restos quoi.
Ouais, et c'est ce que résume bien le cofondateur de la liste, Jörg Zipric. Il dit « La pandémie a révélé que le modèle économique des restaurants haut de gamme en France ne fonctionne tout simplement pas sans les touristes. » Et donc là, c'est ce qui fait notamment peur à tous les restaurants parisiens, c'est que l'été qui arrive, il y a peu de touristes étrangers encore cette année.
C'est qui sera probablement le cas, en fait. Mais les restaurateurs doivent s'adapter, justement, pour faire face à cet été qui sera un peu particulier, quand même.
Voilà, et en fait, pour illustrer le propos, hein, le journal est allé interviewer Yannick Aleno. Mmh. Et Yannick Aleno, qu'est-ce qu'il dit ? C'est qu'il dit « J'ai 3 ans de lutte devant moi ».
Ah, il a dit ça, ouais, bien sûr. Et justement, ce qu'il fait, au lieu de servir un menu à 395 € composé des langoustines et des foie gras dans son restaurant 3 étoiles situé aux Champs-Élysées, Yannick Aleno servira des burgers pour un prix bien plus faible dans son bar à vin, la Lénothèque, et baptisé « Burger père et fils » pour l'été. Et si un chef superstar comme Aleno, qui compte plus d'une douzaine d'étoiles Michelin à travers le monde, change des stratégies, cela montre bien que des grands restaurants français sont confrontés à des difficultés et qu'ils doivent trouver des solutions pour passer la pandémie en limitant les dégâts quand même.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que la moitié des 4 millions d'euros de réserves de trésorerie que son groupe avait, 2 millions ont été dépensés finalement
pendant la pandémie,
pendant la crise sanitaire.
Ah ouais.
Et pour lui, en fait, il y aura beaucoup de victimes parmi les restaurants 3 étoiles.
C'est clair.
Et il explique par exemple que son restaurant phare des Champs-Élysées, il générait plus de 3/4 de son chiffre d'affaires avec des clients étrangers, principalement d'Asie et des États-Unis. Hein.
Bah oui.
Donc, l'une des solutions, selon lui, ce serait de chercher à personnaliser les expériences un peu plus, hein, en discutant au préalable avec les clients à propos de l'occasion de leur dîner, est-ce que c'est un anniversaire, une fête de famille, etc., etc., de qui sont les invités, quels sont leurs goûts, est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas. C'est vraiment personnaliser l'expérience de la gastronomie 3 étoiles.
C'est intéressant. Donc, il appelle à changer la totalité de l'expérience avec un style plus chaleureux, peut-être, et un personnel plus flexible, adapté aux familles, quoi.
Ouais, ce serait un peu une approche en mode service conciergerie. Ça permettrait de mieux planifier les menus, hein, d'une part.
Bien sûr.
Ça améliorerait donc l'expérience du client, hein, parce que se retrouver dans un gastronome 3 étoiles avec un menu sur lequel il y a un plat que vous n'aimez pas, bon, ça, l'expérience est moins bonne. Donc, ça permet vraiment d'avoir une expérience satisfaisante tout du long. Et surtout, pour le restaurant, ça lui permet de commander des quantités beaucoup plus précises de chaque produit.
C'est très intéressant, ce qu'on pourrait appeler de la haute gastronomie on demand.
Voilà.
Olivier, pour continuer, on reste dans la thématique du luxe avec un article écrit par Émilie Lestari du journal Libération sur les eaux de luxe. C'était donc sur Libération, eau de luxe, la mer à boire. Alors Olivier, c'est quoi les marchés des eaux de luxe ?
Alors, les eaux de luxe, c'est un segment de niche, hein, clairement,
ah oui.
Mais qui par contre a l'air d'être en forte croissance. Alors, quand on parle d'eau de luxe, c'est par exemple de l'eau de mer qui est puisée à plus de 300 mètres de profondeur au large des côtes bretonnes. C'est de l'eau qui est prélevée dans des icebergs de l'Atlantique Nord. Alors, en fait, c'est des eaux qui sont vendues comme étant pures et elles sont présentées dans des bouteilles en verre à la manière des grands crus du vin ou alors de grands parfums.
Il y a même des lots, des nuages, des Tasmanies qui est vendu, Olivier. Plus la ressource vient de loin, dans les profondeurs maritimes, comme tu as évoqué, ou dans les hauteurs de l'atmosphère, plus ça fonctionne. Les marques jouent sur l'image de la rareté. On y retrouve tous les codes de l'industrie du luxe, en effet.
Ouais, alors elle s'appelle Breeze, Odip, Berg, Antipodes Water. Et elles se vendent jusqu'à 10 fois plus cher que les eaux classiques. Hein. J'ai vu des bouteilles sur Internet, 10,50 € pour une bouteille de 75 centilitres.
10,50 €.
Ouais.
Il y a même une bouteille à 69 €.
Ouais, elle s'appelle Bling H2O.
Mais en fait, ah oui, c'est du bling-bling, ça.
Je ne sais pas ce qui est incrusté sur la bouteille, donc 69 € la bouteille de Bling H2O.
Énorme, en fait.
Et en fait, comme le précise l'article, c'est des eaux qui étaient autrefois réservées aux rayons confidentiels de quelques épiceries bio, mais qui aujourd'hui se démocratisent et sont de plus en plus disponibles finalement dans les super et les hypermarchés.
Oui, les marchés se développent de la même manière que des grands crus, des spiritueux haut de gamme avec des bouteilles en cristal ou en verre sculptées par des artistes. Mais payer un tel prix pour une ressource naturelle qui est un bien commun et gratuit, est-ce que c'est vraiment rationnel ça, Olivier ?
Alors surtout, en fait, ce qui est mis en avant dans l'article, c'est que la définition d'une eau pure, elle est assez floue, hein, parce que finalement, au sens chimique, une eau est dite pure quand elle est déminéralisée. et donc impropre à la consommation par définition. Et pour la chercheuse Agathe Heusen, la pureté revendiquée par ces eaux, en fait, elle se rapprocherait un peu de la définition qu'utilisait Bria Savarin, à savoir la transparence, l'absence de goût et la neutralité. Et du coup, pour justifier ce positionnement luxe, ces marques d'eau, elles vont jouer justement sur l'esthétique et la rareté.
Ah, effectivement, et les marques annoncent des taux de présence en minéraux records qui peuvent avoir des propriétés nutritionnelles intéressantes et bénéfiques. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Selon le professeur Bernard Légube, spécialiste en physico-chimie des eaux, certaines eaux présentent même moins de minéraux que l'eau du robinet. Pour se distinguer sur les marchés, les marques misent sur la rareté et des lieux exceptionnels, comme on a évoqué, les glaciers du Canada ou les fameux nuages de Tasmanie, puisqu'il est évidemment impossible de faire différence au visuel entre une eau des glaciers ou de la volvique ou l'eau du robinet.
Ou même de la cristalline, voilà. Donc évidemment, c'est le problème avec ces eaux-là, c'est que du coup, le bilan carbone, il est peu flatteur. Hein. Si vous faites venir de l'eau de Nouvelle-Zélande ou du Canada, elle est forcément, le bilan carbone, il est beaucoup plus important que de l'eau du robinet.
C'est clair.
Et il y a aussi quelques pratiques qui sont un petit peu bizarres. Hein. Au Canada, par exemple, on a des chasseurs qui vont aller tirer sur des icebergs pour après extraire l'eau de ces icebergs-là.
C'est énorme. Et c'est compté que les bouteilles en verre sont certes recyclables, mais leur cycle de vie et la production est assez énergivore. Et il faut ajouter à cela les coûts du transport de ces eaux et l'impact de carbone du transport, qui sont parfois à plus de 1500 km de l'Europe.
Ouais.
Olivier, pour mieux comprendre ces phénomènes des niches qui se développent, je te propose d'appeler Émilie qui a écrit l'article. Ça te va?
Allez.
Allô?
Oui, bonjour Émilie, c'est Daniel et Olivier des Hits Business, tu vas bien?
Bonjour Daniel et Olivier, oui, très bien et vous?
Très bien, écoute Émilie, on évoque justement l'article que tu as écrit sur l'eau des luxes et on avait quelques questions pour toi aujourd'hui. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé déjà à écrire sur ce sujet?
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire sur ces eaux de luxe? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques années déjà, je voyais ces petites bouteilles, ces flacons jolis disposés dans certaines épiceries bio.
Mmh.
Puis, j'ai l'impression qu'on les a de plus en plus vus dans des pop-up stores, des événements autour de la gastronomie. Et là, ça m'a frappé ces dernières semaines de les retrouver en tête de gondole dans certaines grandes et moyennes surfaces.
Mmh.
Et là, je me suis dit, on tient peut-être quelque chose. Peut-être que quelque chose est en train de se faire. Le phénomène est en train de devenir vraiment plus grand, plus large que prévu. Et je me suis dit que c'était important de me pencher sur cette question parce que je crois que dans la consommation, il y a toujours une part de rêve, de projection, une volonté d'embrasser un univers. Et quand ça touche à l'eau, qui est quand même un élément de base dans notre alimentation, un élément très quotidien, cette part de rêve et de projection, c'est important aussi de savoir la détricoter et déconstruire cet imaginaire qui est parfois en fait... et souvent élaborée sur des fins purement marketing, en fait, quand on parle de ces eaux de luxe qui coûtent extrêmement cher pour ce qu'elles sont.
Mmh.
Bonjour Émilie, c'est Olivier là.
Bonjour Olivier.
J'avais une question finalement, ces eaux-là, à quel type de clientèle ça s'adresse? Parce qu'on les voit effectivement de plus en plus en supermarché, hypermarché, mais qui va les acheter finalement?
Alors, initialement, avant qu'elles atteignent les grandes et moyennes surfaces, je pense que ces eaux étaient surtout destinées aux grands hôtels de stations de ski huppées ou aux restaurants gastronomiques. Certaines personnes parlaient aussi de les disposer sur des tables de mariage, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent parce que les gens disent que, notamment sur Internet, en fait, on voit des offres d'organisation de mariage qui expliquent qu'à table, il n'y aura pas de la vulgaire eau minérale que tout le monde connaît, mais plutôt ces jolies bouteilles. Donc, je pense qu'à la base, c'est un marqueur social, parce que l'eau, c'est un produit qui est indifférencié. En fait, une fois dans le verre, toutes les eaux se ressemblent. Alors, ce qui fait qu'une eau compte plus qu'une autre aux yeux du public, c'est l'image de marque en amont, à travers les publicités, l'esthétique qui est mise en avant, ou la bouteille, en fait, surtout, toutes les collaborations qui sont faites avec les artisans qui disent travailler le verre, ou des designers connus. Donc ça, c'est, le premier type de clientèle. Et puis, en fait, finalement, le deuxième type, c'est aussi ces gens à qui on va réussir à faire croire que ces eaux sont plus pures que les eaux classiques, qu'elles vont en fait être meilleures pour la santé et que du coup, ça vaut le coup peut-être de mettre la main au portefeuille et de payer jusqu'à 10 fois plus cher pour vraiment se faire du bien à l'organisme.
Et Émilie, est-ce que tu as pu déguster certaines de ces eaux pour réaliser l'article et qu'en as-tu pensé en fait?
Alors, j'avais pu en déguster certaines, oui, lors d'événements ou parfois au restaurant parce que Parfois, c'est vraiment ce qu'on nous sert quand on est dans un restaurant gastronomique et on n'a pas forcément d'autres choix. Pour ma part, j'ai pas vu une différence notable dans le goût. Ce qui est certain, c'est que toutes les eaux peuvent avoir leur goût unique, puisqu'en fait, ce qui fait le goût d'une eau, c'est au sens chimique les différents minéraux qu'elles vont contenir. Donc, c'est sûr qu'il y a des légères variations. Mais de là à dire que ces eaux pures, dites pures, étaient exceptionnelles, là, en fait, clairement, on ne peut pas le dire, puisque de toute façon, il y a quelque chose de volontairement flou autour de la définition de la pureté. Parce qu'au sens chimique, la pureté absolue, c'est vraiment la molécule H2O. Donc, ça voudrait dire une eau déminéralisée. Mais les chercheurs du CNRS avec qui j'ai discuté pour écrire cet article m'ont bien expliqué qu'en fait, une eau complètement déminéralisée, ce ne serait pas une eau intéressante à boire au quotidien, puisqu'en fait, on a besoin de ces sels minéraux pour que l'organisme fonctionne bien. Donc en fait, une eau purement déminéralisée, ce serait éventuellement une eau qu'on peut boire de temps en temps, par exemple pour la congeler et accompagner un whisky, si on veut absolument pas que le whisky soit altéré par le goût d'une eau, ou alors si on veut jouer la carte de la classe et se dire, allez, sur telle expérimentation on va goûter ce plat unique, cette bouchée, et ben, on va boire de l'eau avec, et cette eau ne va pas entraver l'expérience. Mais en réalité, ces eaux ne sont pas pures au sens de meilleur pour la santé, puisque tout ce qu'on met en avant, c'est les endroits finalement où on a été les chercher. Le paysage immaculé, qu'on va expliquer comme jamais atteint par les activités humaines, alors qu'en fait, la pureté totale n'existe pas. L'eau prend toujours les minéraux des roches qu'elle traverse.
Ah oui, justement, ces eaux, elles viennent parfois de très loin. J'ai vu des eaux qui venaient de Nouvelle-Zélande. C'est quand même une aberration écologique, hein.
Ah oui, totalement. On est d'accord avec ça. C'est une aberration écologique. C'est étonnant d'ailleurs de se dire que peut-être que certaines personnes vont mettre la main au portefeuille en se disant je vais boire cette eau qui vient, donc cette eau des nuages, qui vient des montagnes des Canaries, ou cette eau de mer au large des côtes bretonnes à 300 mètres de la surface, cette eau d'iceberg. On a l'impression que ce qu'on veut avoir dans le verre, c'est vraiment la pureté, la nature. Mais précisément, cette nature, elle est endommagée par le transport de ces eaux, puisqu'en fait, on prenait l'exemple, par exemple, donc l'eau des nuages de Tasmanie, qui est commercialisée par la marque Cloud Juice. Cette eau, donc, typiquement, la Tasmanie, donc, c'est une île qui est au large de l'Australie. Donc, le temps de la ramener jusqu'en Australie, il y a 80 km. Puis de l'Australie jusqu'à l'Europe, il y a 15 000 autres kilomètres. Wow. Il y a un coût environnemental lié au transport qui est extrêmement, extrêmement fort. Et puis, on peut parler aussi des modes de collecte en fait de ces eaux, hein, puisque dans le cas, par exemple, des eaux qu'on va chercher dans l'océan ou dans la mer Méditerranée, elles sont mises en bouteille à bord d'un gros bateau usine. Donc, on peut se questionner en fait sur finalement le coût écologique de tout ce phénomène.
Émilie, merci beaucoup pour ta participation et de nous avoir apporté toutes ces informations. Et j'espère à très bientôt.
Merci à vous.
Au revoir, Émilie.
Olivier, on parle maintenant d'un article de Bloomberg qui dessine un nouvel avenir au café. C'était sur Bloomberg, Coffee Without Beans, a startup brews a new cup of joe. Du café sans café, une startup prépare une nouvelle tasse de kawa. Après la viande sans viande ou les laits sans lait, voici désormais le café sans café.
Eh oui, il va falloir s'y habituer, on fait de tout sans tout. Voilà.
C'est la bouffe sans la bouffe. Quoi.
Voilà. En fait, l'article s'intéresse à une startup food tech américaine qui se nomme Atomo Coffee. Et en fait, ils produisent un café. Alors, café entre guillemets, hein, évidemment, qui est fabriqué à partir d'ingrédients recyclés. Donc, c'est le côté intéressant de la chose.
Bien
hein.
sûr, bien sûr.
C'est des enveloppes de graines de tournesol, des graines de pastèque. Et en fait, ils vont mélanger ça, ils vont le faire un espèce de mélange chimique qu'ils ont breveté. Et à sortir de ça, ça produit des molécules et selon eux, ça imite la saveur et la sensation en bouche du vrai café. Et ensuite, le marc qui résulte de ça, il est infusé un peu comme une tasse de café ordinaire et la boisson obtenue, elle contient même de la caféine selon eux.
Ah, je reste sceptique, Olivier, mais il faut bien goûter pour voir. Dans tous les cas, c'est super que des startups innovantes s'élancent pour trouver des alternatives au café, car le caféier est une plante qui risque de souffrir du réchauffement climatique.
Et oui, et là, on parle quand même d'une industrie à 100 milliards de dollars. Hein.
Énorme.
L'industrie du café, c'est une grosse industrie.
D'accord.
Mais c'est aussi l'une des plus vulnérables au changement climatique. Hein. On en parlait il y a quelques semaines.
Oui.
Au cours des 7 prochaines décennies, l'Arabica risque de perdre au moins 50% de sa zone de production, d'après un rapport qui a été publié en 2019.
Arabica, on rappelle, c'est la variété du café qui a la plus gustative, des meilleures qualités.
Voilà, parce que le Robusta, on sait que ce n'est pas très bon.
Voilà.
Et du coup, en fait, après plus de 2 ans de développement, Atomo Coffee, ils vont lancer leur café cette année. Alors, dans un premier temps, ce sera sous forme de canettes de cold brew. On en a beaucoup aux États-Unis, un petit peu moins chez nous, de cold brew. Et à terme, en fait, l'entreprise, elle prévoit d'étendre sa gamme avec des cafés instantanés, des paquets de cafés moulus, même des cafés en grains. Alors,
un
ça
grand,
m'a fait rire.
Comment ils vont le faire?
Alors, je ne sais pas, mais c'est marqué quand même, café en grains. Et l'un des cofondateurs d'Atomo Coffee, il présente son entreprise comme la Tesla du café. Attention.
Ça, je n'avais pas entendu celle-là, la Tesla du café. Les fondateurs, en fait, il a déclaré que de la même manière que Tesla pour le secteur automobile, son café était la meilleure option pour consommer un café non issu de la déforestation. Car en effet, certains cultivateurs, comme tu as évoqué, à cause du réchauffement climatique, déplacent leur exploitation à la recherche des températures plus fraîches. Et donc, les taux de déforestation dans certains pays augmentent. Mais bon, désolé Olivier, en tant que grand amateur des cafés, ça me donne pas trop envie. Je pense qu'on ne pourra pas me convertir au faux café de la même façon qu'on m'a pas converti au faux fromage. Je serais plutôt de la team des consommateurs des cafés issus de la Coffea esténophile, une variété résistante au réchauffement climatique et qui a un très bon goût. On en a parlé lors de l'épisode 16 d'It's Business.
Et en fait, l'entreprise, moi j'ai appris ça, hein, là-dessus, il compte sur une subtilité juridique, il s'appuie sur une subtilité juridique américaine, dans le sens où contrairement à la viande et aux produits laitiers, aux États-Unis, le terme café, lui, il n'a pas de standard d'identité qui est réglementé par la FDA, hein, qui est l'équivalent américain de notre agence française sécurité sanitaire des produits de santé. En somme, grosso modo, une boisson peut s'appeler café sans que ses ingrédients puissent provenir d'un lieu en particulier ou d'une plante particulière, tu vois. Donc, tu peux appeler un peu tout et n'importe quoi café, en fait.
Mais la filière du café va sans doute monter au créneau pour contester l'appellation café de ces types de produits, comme l'ont fait la filière de la viande et la filière laitière en Europe, par exemple.
Oui, mais justement, cette subtilité juridique, je ne suis pas sûr que, du coup, ça puisse fonctionner pour eux. Donc, c'est une affaire à suivre. Hein. En tout cas, Atomo Coffee, ils ont déjà levé 11,5 millions de dollars en 2 tours de financement en moins de 2 ans.
Bah, comme on voit toutes les alternatives dans l'alimentation qui continuent à attirer de plus en plus d'investisseurs.
Ouais, tout à fait.
On va continuer avec un autre article sur le café. C'était sur BuzzFeed, The Rise of the Appuccino, How TikTok's Changing Starbucks, la montée de l'appuccino, comment TikTok est en train de changer Starbucks. Alors Olivier, encore un article qui montre la puissance des TikTok dans la bouffe aux États-Unis.
Oui, on avait parlé il y a quelques semaines de l'effet TikTok sur les ventes de feta.
Les feta pasta, les feta tomate.
Fameuses feta pasta. Alors cette fois-ci, l'article s'est inspiré d'un tweet qui a été publié début mai. Ça présentait une photo d'une commande Starbucks. C'était une boisson qui contenait pas moins de 13 personnalisations.
J'ai vu, Olivier, c'était énorme. Les clients demandaient, entre autres, des bananes, du caramel, de la crème, du miel et plein d'autres ingrédients. Finalement, c'est un peu un café sans café.
Voilà, tout à fait. C'est un peu du café sans café. C'est beaucoup de sucre, hein, par contre, à mon avis. Mais... Et en fait, ce que l'article explique, c'est que Starbucks, évidemment, comme toutes les bonnes chaînes dignes de ce nom, ont développé une appli. Et l'appli, elle pèse aujourd'hui de plus en plus lourd dans le chiffre d'affaires du groupe. Hein, d'après un récent rapport qu'ils ont publié, 26% des commandes passées entre janvier et mars 2021 l'ont été par l'intermédiaire de cette appli mobile.
Énorme, 26%, c'est gigantesque. En fait, la pandémie a accéléré cette tendance, Olivier, car avec les click and collect, l'application mobile est devenue cruciale pour Starbucks.
Oui, et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est sur une appli, finalement, l'ajout de personnalisation, il est plutôt facilité et même encouragé par Starbucks. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on parle de l'ère de l'appuccino.
Ouais, de l'appli, quoi.
Voilà.
Et oui, parce que l'application mobile, tout est possible. Et personne pour te juger si tu as envie de mettre des bouts de kiwi dans ton kawa, par exemple.
Voilà, tout à fait. Mais finalement, le véritable contributeur de la montée en puissance de l'appuccino, comme on dit, c'est à trouver du côté des réseaux sociaux. et plus particulièrement chez TikTok. Hein. Mmh. Sur TikTok, on a des suggestions de boissons personnalisées qui deviennent virales. On a même des influenceurs de Starbucks. On a même des employés de Starbucks qui font des vidéos TikTok et qui montrent les boissons qu'ils préparent.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que TikTok, c'est un peu le réseau star des adolescents.
Bien sûr.
Mais surtout, en fait, c'est ce que précise bien l'article, c'est que contrairement aux adultes, hein, qui ont tendance à prendre toujours la même commande, tu vas américain, tu vas au Starbucks, tu commandes un peu tout le temps le même truc. Eux, les adolescents, ils aiment bien changer, expérimenter des nouveaux goûts, des nouvelles commandes.
Bah écoute, je comprends tout à fait les côtés ludiques des personnaliser son café, mais je reste très old school sur les sujets. Je préfère mon café filtre espresso qu'une boisson qui contient au final plus des sucres et des crèmes que de café, en fait.
Oui, et par contre, du coup, faut bien voir que l'effet TikTok, hein, il n'est pas insignifiant sur les commandes.
Non,
hein.
Oui.
Un barista dans le New Hampshire, il a raconté à BuzzFeed que l'été dernier, il y a une boisson qui était devenue virale sur TikTok et du jour au lendemain, elle s'est mise à représenter jusqu'à 20% des boissons qu'il préparait.
20%.
Ouais.
C'est ouf. Ouais.
Et évidemment, l'appuccino, comme tout terme marketing qui se doit, il a ses propres influenceurs sur TikTok. Alors, je vous invite à aller voir le profil de Anna Sitar, hein, qui est une influenceuse appuccino et qui compte quand même pas moins de 9,2 millions d'abonnés aujourd'hui.
J'adore. Influenceuse appuccino, c'est énorme.
Ah, mais faut voir ses vidéos, hein, ce film en train de faire sa commande chez Starbucks.
Bah, écoute, je vais le faire. Je ne l'ai pas fait avant l'enregistrement. Mais en fait, les commandes personnalisées existent depuis bien longtemps chez Starbucks. Hein,
oui, parce que c'est
Starbucks,
pas une nouveauté.
Non, ils proposent ça, la première personnalisation depuis 1984, en fait. C'était du lait écrémé sur demande pour les lattés. Et depuis, l'entreprise a énormément diversifié sa gamme des boissons et propose de plus en plus des boissons sans café, comme les réfraîchats fruités et les thés glacés. Et au final, ces boissons mélangeant plein d'ingrédients sont la marque des fabriques des Starbucks, qui ne proposent pas réellement du café, mais plutôt des boissons aromatisées au café, si on peut le dire.
Ouais, mais j'aimais bien vraiment le côté influence des réseaux sociaux sur des groupes comme Starbucks.
Oui.
D'ailleurs, Guillaume Millet, qu'on avait la semaine dernière, me disait sur Twitter que même eux, ils ont été influencés par TikTok il y a très peu de temps.
Et c'est très intéressant pour les acteurs français parce que c'est un phénomène qui va s'intensifier en France. Et je pense que l'impact des TikTok sur les ventes, surtout pour cette population jeune, on va les voir de plus en plus souvent. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Bon, Olivier, merci encore une fois pour cette newsletter très riche et complète. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business.
Salut Daniel, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.